C'est un très grand événement. Vous voyez, ce séminaire s'appelle Saint-Cyrénée. Donc, nous attendons une lettre du Saint-Père qu'il a écrite exprès pour l'ouverture de ce séminaire, qui était pour lui aussi un événement. Pourtant, la figure de Saint-Irénée est majeure, parce que Irénée, c'est le premier jaillissement de la théologie dans toute l'histoire de l'Église. C'est pas un père de l'Église, on peut dire que c'est le père des pères de l'Église, aussi bien des pères d'Orient que des pères d'Occident. Et tout le monde sait, comme Benoît XVI est attaché à Saint-Irénée, à la naissance de la théologie, à son renouveau. Et en plus, c'est vraiment un docteur de l'unité, c'est-à-dire qu'il est la racine commune pour les orthodoxes et les protestants, les catholiques et les arméniens. Je suis allé l'autre jour à la consécration de l'autel et je leur ai dit « Demandons au Seigneur comme intention première dans ce séminaire, puisque vous êtes formés un peu à l'ombre de cette si belle figure de Saint-Irénée, l'unité des chrétiens. » Alors, naturellement, je confie les formateurs, les professeurs, tous les jeunes, leurs familles, à la prière de toute la communauté chrétienne, à l'occasion de ce très bel événement.
Suite aux révélations des affaires de pédophilie qui salissent l'Église depuis de longs mois, ce nouveau séminaire ouvre-t-il la voie sur un nouveau type d'enseignement dans lequel serait insérée une formation sur la sexualité ?
La formation des prêtres, vous imaginez qu'on y travaille sérieusement depuis longtemps. Donc on a fait des modifications, on a réfléchi les choses. C'est-à-dire que les problèmes que vous évoquez ont amené des changements. Et c'est vrai que le mode de formation théologique, spirituel, fraternel et humain à l'intérieur de notre séminaire a beaucoup changé depuis 3-4 ans. Notamment l'année dernière, quand il y a eu ces grands troubles au sujet de la pédophilie, les séminaristes étaient très perturbés en disant « Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Dans quelle église sommes-nous ?» Je donne une lecture spirituelle une fois par trimestre et d'autres évêques aussi passent devant la communauté. Et avant que ces difficultés n'éclatent, j'avais précisément fait une longue direction spirituelle sur ce sujet avec leurs questions. Donc ça tombait bien, parce qu'après, quand ont éclaté ces drames, si on peut dire, de la pédophilie, ils m'ont dit « Est-ce que vous pouvez revenir ?» Parce que du coup, ça a fait surgir des questions nouvelles. Donc on avait déjà une réflexion commune sur le sujet, j'en étais content.
Les prêtres sont de plus en plus amenés à bouger, se déplacer, ce qui nécessite une ouverture. Des échanges entre les séminaires sont-ils prévus pour donner à ces futurs prêtres, justement, cette ouverture ?
L'ouverture internationale, c'est une très bonne chose. Donc nous envoyons, dès que nous pouvons, un séminariste formé à Washington, à Tübingen, à Salamanque, à Rome, bien sûr, à Bruxelles, même en Afrique. Voilà. Donc cette année, il y a une tractation pour qu'on puisse en envoyer un à Dakar, un autre à Cotonou, là au Bénin, le séminaire de Ouida, parce qu'il y a une excellente formation dans ces endroits. Et souvent, il y a un rapport nord-sud un petit peu drôle en disant c'est le nord qui vient aider le sud. Mais je pense que les séminaristes français ont beaucoup à recevoir quand ils vont dans des universités théologiques de grande qualité qui sont en Afrique. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Et en plus, cette année, nouvelle ouverture, nous accueillons à la demande du métropolite Filaret de Minsk un séminariste orthodoxe, donc qui a envie de découvrir la théologie catholique et une communauté catholique et qui va donc loger dans notre séminaire. C'est une très grande joie. Et ça, c'est pour ce qui est d'ouverture. La question pastorale du futur, c'est-à-dire vous aurez un ministère d'itinérance, il n'y aura plus la vie des paroisses comme ci et comme ça, tout va changer. Il y a un peu de mythe là-dedans. C'est-à-dire que je pense que quand quelqu'un est profondément formé comme prêtre, vous voyez, du point de vue de sa solidité humaine, du point de vue de sa formation intellectuelle, de son âme de pasteur, de son sens de l'Église, de sa vie fraternelle, de sa vie spirituelle, il saura s'adapter aux nécessaires changements. Les gens qui sont solides et bien enracinés, ils vivent ces changements. Je préfère que nous travaillions très sérieusement à la formation des futurs prêtres. Ce sont les jeunes qui sont ici, que leur diocèse nous confie, et nous devons leur donner le meilleur. Je ne peux pas dire qu'un prêtre dans le centre de Lyon, il aura un ministère d'itinérance, alors que c'est peut-être tout à fait vrai pour celui qui aura toute une vallée de la Maurienne. Ou...
Est-ce qu'il y a de nouveaux défis auxquels les prêtres de demain devront faire face ?
Je pense que du point de vue théologal, en France, le plus grand défi, c'est celui de l'espérance. Ça m'avait frappé dans l'exhortation apostolique sur l'Europe écrite par le pape Jean-Paul II, qui percevait cela et qui l'a dit avec beaucoup de délicatesse, vous voyez. Mais toute son exhortation apostolique tournait autour du thème de l'espérance. C'était un commentaire de l'Apocalypse. C'est-à-dire, n'ayez pas peur, vous voyez, les portes du temps s'ouvrent sur l'éternité, sur le royaume. Alors, après une période d'extraordinaire expansion qu'a connue la France entre, mettons, je ne sais pas combien, 1850, 1830 et 1930, il y a un déclin terrible, très éprouvant du point de vue, non pas seulement des prêtres, du nombre des prêtres, ce qu'on dit tout le temps, mais du point de vue des chrétiens. La France qui a 65% de baptisés, elle n'a même pas 4% de gens qui vont à la messe, qui est incroyable. Donc c'est une maladie spirituelle sacrifier à l'intérieur de l'ensemble du peuple chrétien, c'est très très éprouvant pour ceux qui veulent consacrer leur vie à sanctifier ce peuple, à prêcher l'évangile, etc. À mon avis, le principal, c'est de dire, quoi qu'il en soit des vicissitudes de l'histoire, vous êtes sûr que l'évangile est un trésor. Vous êtes sûr que vous avez des merveilles quoi, dans la richesse de l'enseignement de l'Église et de sa tradition. Donc, imprégnez-vous de cela, et après, ça portera un fruit que vous ignorez, que vous ne pouvez pas prévoir. C'est comme ça.
Et sinon, ce nouveau séminaire doit regrouper 16 diocèses. Est-ce une preuve de la crise des vocations ? Enfin, qu'en est-il vraiment de la crise des vocations ?
La crise des vocations, c'est une très grande épreuve actuellement en France. Je pense à un propos du cardinal Lustiger. Un jour, il m'avait dit, tu vois, dans les années 1960, on ordonnait 1000 prêtres en France à cause du matérialisme, de l'athéisme ambiant, etc. Et comme malheureusement, on est tombé de 1000 à 100, c'est le moral qui est atteint. Donc, en fait, notre foi est profondément sollicitée. Je demande au peuple chrétien de prier intensément pour les garçons qui font ce choix aujourd'hui parce que c'est difficile. Voilà, il faut vraiment faire un grand acte de foi pour dire je vais demander mon incardination dans un diocèse, être prêtre dans un diocèse. Quand c'est une période de grande pauvreté, le sacrifice est double, voilà. Je pense à un jeune ingénieur qui venait me voir et qui me dit qu'il voulait rentrer au séminaire. Et je dis, ben, j'admire, quoi, ta décision. Et il me regarde avec un sourire, il me dit, ben, monseigneur, vous êtes rentré après les troubles de 68. Ça devait être difficile aussi. Chaque génération a ses difficultés. Je trouve que c'est une parole merveilleuse, remplie de paix, vous voyez. C'est-à-dire qu'au fond, dans chaque période, il y a des épreuves, il y a des difficultés. Je pense à ceux qui rentraient de la guerre d'Algérie, ceux qui avaient été dans les camps de prisonniers en 45. Avec la grâce de Dieu, on est taillé pour la course, quoi. Donc, au fond, j'ai confiance en Dieu qui donne aux jeunes d'aujourd'hui la force dont ils ont besoin pour prendre cet engagement. Chaque génération est attaquée d'une manière différente dans la leur. La valeur, par exemple, de la pureté, de la chasteté, du don de soi, de l'intériorité. Garder du temps de silence et pas être tout le temps rivé sur la pub, Internet, etc. C'est un vrai combat. Et je trouve que chaque génération produit ses anticorps contre les agressions dont elle est l'objet. Et ça me réjouit beaucoup. C'est-à-dire que la grâce de Dieu ne manquera jamais. Alors, il y a beaucoup d'agressions aujourd'hui, donc il y a un certain nombre de pessimistes qui disent c'est une catastrophe, c'est abominable, c'est affreux, tout s'en va, etc. Toutes les générations, il y a des gens qui ont dit tout fout le camp. Et je pense que eux-mêmes, s'ils sont ouverts à la grâce de Dieu, qu'ils produisent les anticorps dont ils ont besoin pour résister. Et ça me réconforte énormément. D'une certaine manière, j'ai beaucoup d'admiration pour eux.